Bonjour à tous, bienvenue, bon appétit les midi et demi.
Europe Midi Week-end.
Thierry Dagiral.
30 minutes d'information jusqu'à 13h et plusieurs dossiers que l'on va développer ensemble en ce dimanche 17 octobre. Notre pouvoir d'achat d'abord. Prix du gaz, de l'électricité, des carburants qui grimpent, colère qui gronde. Le gouvernement pourrait rapidement annoncer la mise en place du chèque essence. Les pistes et l'analyse de l'économiste Philippe Chalmin dans un instant. Il y a 60 ans, le massacre des Algériens qui défilaient pacifiquement à l'appel du FLN. Témoignage très fort d'un de ces manifestants. Du 17 octobre 1961, dans ce journal, le président Macron en a-t-il fait assez hier? Je poserai la question à Kader Abderrahim, chercheur à l'IRIS. Le marathon de Paris, c'était la reprise ce matin après arrêt pour Covid. 35 000 coureurs dans les rues de Paris. Pour la plupart, ce n'est pas encore terminé. Victoire du Kenyan Elisha Rotich et un record en moins de 2h05. Nous serons en direct sur le parcours et notre consultant Jean-Claude Perrin nous rejoindra. La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien Thierry, c'est le retour des nuages dans l'ouest avec quelques rares ondées possibles sur le Finistère. Des entrées maritimes toujours en Roussillon qui gâchent un peu votre ciel et ce soleil qui résiste partout ailleurs.
Et la météo complète juste avant 13h.
Europe 1.
Et si le pouvoir d'achat était le grand thème de cette campagne présidentielle qui débute? La semaine dernière, les retraités étaient dans la rue. Hier, quelques gilets jaunes étaient sur les ronds-points. Matières premières qui manquent, produits plus chers donc. Hausse du gaz, hausse de l'électricité, hausse des carburants. C'est le grand ras-le-bol et vous l'avez senti ce matin sur un marché parisien, Thibaut Hue.
Et les prix ont augmenté, les factures sont plus lourdes et ça se sent, ça râle. Nathalie a perdu du pouvoir d'achat ces derniers mois, sa dépense en électricité a flambé.
J'ai senti sur mes prélèvements automatiques pour l'électricité une hausse d'environ 20 euros. De 35 euros, j'en suis presque à 55. C'est un ras-le-bol, bien sûr, c'est un ras-le-bol de plein de choses. Il y a tout qui augmente sauf les salaires. Qu'est-ce que vous voulez faire ?
L'électricité, mais aussi le fioul pour Arnaud, la hausse de son budget pour se chauffer est considérable.
Lorsque le fioul fait presque 1 euro le litre, voire 1 euro le litre, ma cuve fait 3000 litres, donc le calcul est très vite fait, ça fait 3000 euros. Après, ça devient des dépenses qu'on ne peut pas éviter. On peut se restreindre sur beaucoup de choses, mais ne pas se chauffer et ne plus bouger de chez soi, non, on ne peut pas.
Et le grand responsable, c'est aussi le carburant. Le litre d'essence n'a jamais été aussi cher. Pas facile pour Thierry qui utilise la voiture pour aller travailler.
J'ai deux voitures perso, une de travail. Et bien forcément, les deux voitures, c'est pas évident.
Et pour le prix à la pompe, le gouvernement devrait déployer des mesures pour soutenir les plus modestes.
Justement, merci beaucoup Thibaut. 1,53 pour le litre de diesel, 1,63 pour le samplon 95. Le gouvernement, en effet, doit annoncer très prochainement, sans doute la semaine prochaine, des aides pour réagir à cette flambée des prix des carburants. Quelles sont les pistes envisagées, Aurélien Fleureau?
Alors, la piste privilégiée reste celle d'un chèque carburant, à l'image du chèque énergie, avec une aide de 100 euros pour les ménages les plus modestes, ce qui a été annoncé il y a un mois. Sauf que là, la mise en œuvre du dispositif est plus complexe, puisque l'idée de l'exécutif, c'est bien de parvenir à aider ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler, pour se déplacer, d'arriver donc à cibler de manière précise. Voilà pourquoi l'option de faire baisser les taxes ne semble pas tenir la corde. Ce serait plus simple à mettre en place, c'est vrai, mais cela reviendrait à aider un tout petit peu tout le monde, sans distinction de revenus. L'autre option, celle d'une taxe flottante pour répondre à une hausse conjoncturelle des prix, ne semble pas non plus être la piste prioritaire du gouvernement. Et puis l'appel aux distributeurs à faire un geste, selon les mots de Barbara Pompili, la ministre de la Transition énergétique, a été fraîchement accueillie par les professionnels. Réduire les marges ne permettrait de faire baisser le plein que d'un ou deux centimes d'euros par litre.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Et puis écoutez demain Bruno Le Maire, qui sera le ministre de l'économie, qui sera demain dès 8h15 l'invité spécial de la matinale d'Europe 1. Bonjour Philippe Chalmin.
Bonjour.
Économiste, spécialiste des marchés des matières premières, professeur également à Paris Dauphine. On vient d'entendre les pistes concernant le carburant. L'exécutif doit agir, annoncer des mesures au plus vite. Je vous perds, Philippe Chalmin.
Je disais oui et non.
C'est-à-dire ?
Oui et non. Eh bien, tout simplement parce qu'il faut quand même aussi que les Français.
Philippe Chalmin.
En ces temps. Allô, allô, allô.
Oui, je vous entends. Allez-y, allez-y.
Oui, je... quand même, par moment, que les Français comprennent des choses, comprennent que le prix du pétrole, le prix du gaz naturel, le gouvernement n'en est pas responsable.
Bien sûr, mais on peut agir sur les taxes.
Mais on peut agir sur les taxes et vous voyez ce que ça coûte. Si on veut vraiment agir sur les taxes, mettons baisser la TICPE de 5 centimes. C'est un budget de 2,5 milliards d'euros. Et rien ne vous garantit que demain, le prix du pétrole ne va pas monter et ces 5 centimes seront totalement avalés. Il faut savoir quand même raison garder. À la limite, il en est un peu de même en ce qui concerne le gaz naturel.
Ouais.
Mais pour l'essence, la piste qui me paraît à moi la plus faisable,
c'est le chèque carburant.
Avec un certain ce serait le chèque carburant.
Ouais.
Et j'irai peut-être même un peu plus loin, le chèque carburant sur la même logique que le chèque restaurant, c'est-à-dire gérer éventuellement par les comités d'entreprise et abonder éventuellement par les entreprises en visant justement les gens qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller au travail. C'est cela qu'il faut viser avec un plafond de revenus. Je pense que ça peut se mettre en place, mais ça prendra du temps. Et il ne faut pas se leurrer. Le gouvernement ne peut pas faire des miracles et on ne peut pas en permanence de lui demander de raser gratis.
Rapidement, Philippe Chalmin, globalement, on parle du pouvoir d'achat. Il y a les chiffres, ceux de l'OFCE, par exemple, hausse du pouvoir d'achat de 1%. Et puis, il y a la réalité, on vient de l'entendre dans le reportage de Thibault Hue, de ce que vit finalement, ce que disent les Français. Ce sera l'un des enjeux de cette présidentielle.
Dans le discours, oui. Dans la réalité, non. Dans la réalité, non, parce qu'effectivement, le chômage a quand même tendance à baisser. Certes, nous avons tous et nous savons à peu près tous ce que vaut un litre d'essence, tout comme ce que vaut une baguette de pain ou un kilo de pâte. Mais il faudra se rendre compte que ce sont là de tout petits éléments dans notre budget global. Le budget essence des Français, c'est 4% du budget, grand maximum. Donc ça, il faut quand même aussi le rappeler. Donc il y a le champ du symbole, qui est plus qu'un symbole pour certaines catégories. Et là, c'est vrai, et on peut peut-être faire un coup de pouce pour tous ceux qui sont obligés tous les matins de prendre leur voiture et qui roulent en plus diesel. Vous voyez qui je veux dire. Mais pour le reste, je ne pense pas que, sortant quand même de 2 ans de crise qui ont été majeures, et que la France a finalement bien traversée. Ça nous a coûté cher, mais il faut le reconnaître. On voit actuellement une diminution spectaculaire des défaillances d'entreprises, alors qu'on aurait pu s'attendre à un surcroît de faillites. C'est que l'État Providence en France a bien fonctionné.
Bien sûr.
Alors de grâce, n'allons pas ergoter sur des choses importantes qui sont quand même un peu secondaires après la tempête qu'on vient de traverser.
L'économiste Philippe Chalmin en direct sur Europe 1. Grand merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. La politique à présent avec le Congrès des Républicains qui aura lieu le 4 décembre prochain. Michel Barnier était l'invité ce matin du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Il est pour l'heure très largement distancé par Xavier Bertrand en tête, puis par Valérie Pécresse. Sa réaction ce matin sur notre antenne.
Je veux rappeler que ce ne sont pas les sondages qui font le président de la République. Jamais dans l'histoire des 30 dernières années, les sondages réalisés 5 ou 6 mois avant n'ont donné le résultat final.
Et vous aurez placé en tête, m'auriez dit l'inverse ce dimanche.
Non, je vous aurais dit avec beaucoup de prudence, faites attention aux sondages, comme d'ailleurs aux rumeurs, ou à l'idée que je serais le favori, je fais très attention.
Mais que répondez-vous à un militant qui vous regarde et qui se dit « Monsieur Barnier est placé à 8%, Xavier Bertrand est au-dessus et en plus en capacité peut-être d'être au second
mais
tour
moi, je vais pas
face
parler des
à Emmanuel Macron.
Je vous dis que je me présente tel que je suis, quelqu'un qui est dans cette famille depuis toujours, qui présente ses convictions et ses idées et son projet, et je fais confiance aux militants.
Voilà, Michel Barnier, candidat à l'investiture LR ce matin sur Europe 1. La politique, encore avec le déplacement hier à Béziers d'Éric Zemmour dans la ville de Robert Ménard, qui plaide, on le sait, depuis longtemps pour l'union des droites. Il a proposé à Éric Zemmour de faire un ticket avec Marine Le Pen, d'unir leur candidature en février prochain. Un souhait partagé par de nombreux militants ou sympathisants, comme l'a constaté notre correspondant sur place, Benjamin Péter.
On ne gagnera pas sans Marine Le Pen. On a besoin de tout le monde.
C'est ce que Robert Ménard a voulu faire passer comme message. Et il propose une rencontre en février pour que le moins bien placé des deux s'efface. Ce n'est pas mon sujet, répond Éric Zemmour, pour qui la présidentielle est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Mais pour le maire de Béziers, c'est la seule issue.
Ma conception de la politique, c'est gagner des élections. Ce n'est pas faire un bon score, ce n'est pas se faire plaisir. Ce n'est pas que son ego passe avant tout. Ils s'adressent chacun à une partie de cet électorat qu'on rêvait de réunir. Éric ne gagnera pas sans Marine Le Pen et encore moins contre Marine Le Pen.
Parmi les sympathisants dans les travées, beaucoup espèrent qu'ils se parlent, qu'ils réalisent l'union des droites, comme Geneviève qui a soutenu successivement Jean-Marie Le Pen puis Marine Le Pen avant de choisir Éric Zemmour.
Tout seul, il n'y arrivera pas. Marine est toute seule, elle n'y arrivera pas, elle n'y est jamais arrivée. Il lui manquait pas grand-chose. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'ils s'unissent, c'est bête de faire ça. Ils ont à peu près les mêmes idées, les mêmes envies, il faut y aller. Hein. Sinon, ils n'y arriveront pas.
Et Robert Ménard l'affirme, la route est encore longue et il se donne encore jusqu'au mois de février pour les mettre d'accord sur sa proposition. À Béziers, Benjamin Péter, Europe 1.
À suivre, le témoignage fort d'un manifestant algérien du 17 octobre 1961. Emmanuel Macron a-t-il convaincu avec ses mots hier? Et puis le sport, le marathon de Paris et le foot avec un dernier hommage de l'OM à Bernard Tapie ce soir. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi Weekend.
Thierry Dagiral.
Quasiment une heure moins le quart, la suite de votre journal de la mi-journée. Il y a eu ce matin le dépôt de gerbe du préfet de police de Paris, Didier Lallement. Il a eu surtout le geste fort hier, les mots également. Emmanuel Macron s'est rendu sur le pont de Beson, emprunté il y a 60 ans par les manifestants algériens qui arrivaient du bidonville de Nanterre à l'appel du FLN. On commémore précisément aujourd'hui les 60 ans du massacre d'Algériens, des crimes inexcusable pour la République, a dit hier le chef de l'État. Des Algériens qui manifestaient pour s'opposer au couvre-feu qui leur était imposé. Parmi ces manifestants, Amar Nanouche, il a 84 ans aujourd'hui. Il manifestait ce soir-là, Caroline Baudry l'a rencontré pour Europe 1 dans son appartement de Gennevilliers en région parisienne.
Je tremble, qu'est-ce que je voulais que je fasse?
Son air rieur disparaît quand le vieil homme observe la photo en noir et blanc qu'il tient dans la main. Des centaines de manifestants assis sous la pluie, près d'une barrière on reconnaît son visage, il avait 24 ans.
Nous sommes apparus sur la place de l'Étoile. Alors là, catastrophique. Tout le monde les mains sur la tête. Il y avait un policier qui est venu, il courait, m'a donné des coups de pied. On entend quelqu'un, vous inquiétez pas, tout le monde retourne chez lui. Mais ils ont massacré des gens dans le bus quand on est parti.
Entassés dans ce bus, ils sont emmenés dans une grande salle, porte de Versailles.
Beaucoup de personnes par terre, 1000 personnes facilement. Et il y avait quelqu'un à côté de moi, excusez-moi, il voulait faire pipi. Le mec, il est revenu, il a tombé sur moi. Il est mort. Ils étaient massacrés dans les toilettes.
Amar Nanouche y dort 6 nuits, par terre, ne mange qu'un petit morceau de pain. C'est là qu'il apprend que des manifestants ont été jetés dans la Seine.
Il s'appelle Raya Hassan. Ils ne voulaient pas sauver, ils l'ont pris, taché les mains, jeté à Beson, ils l'ont trouvé à Saint-Denis.
Quatre de ses amis disparaissent ce soir-là. 60 ans plus tard, entouré de ses enfants dans son appartement, il est l'un des derniers à témoigner de ce mardi noir.
Un témoignage recueilli par Caroline Baudry. Bonjour Kader Abderrahim.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste du Maghreb, maître de conférence à Sciences Po. Il n'y a pas eu d'excuse, il n'y a pas eu de pardon du chef de l'État, mais il y a ce déplacement hier, des mots forts dans un communiqué. C'est une vraie avancée.
Indéniablement, je pense qu'on ne peut pas nier la valeur symbolique et la portée historique des propos du président de la République et de ce geste qui est consécutif à beaucoup d'autres. Et je crois que c'est important de le souligner.
Et pourtant, certains militants du 17 octobre 61 sont déçus. Ce n'est pas suffisant, disent-ils.
Oui, c'est vrai qu'il y a aussi une demande de justice. Et il me semble que la réconciliation, ce à quoi se donne le président de la République, et doit aussi s'accompagner de la justice. À partir du moment où les archives sont ouvertes, où les historiens y ont accès, où les témoins, certains témoins sont encore vivants, il me semble que la démarche naturelle pour la République et pour la mémoire républicaine, c'est une reconnaissance de la justice.
Ça veut dire qu'il aurait fallu reconnaître ces faits comme un crime d'État ?
Écoutez, c'est ce qui a été fait par le président de la République. Maintenant, je trouve légitime que les familles des principaux concernés demandent une réparation devant la justice. C'est légitime dans toute forme d'action qui contrevient à l'état de droit. Et le massacre du 17 octobre 61 nous inscrit dans cette perspective.
Dernier point, Kader Abderrahim, rapidement, une commémoration qui intervient dans un contexte, on le sait, un tendu particulier entre Paris et Alger.
Oui, tout à fait. Je ne pense pas que cela a contribué à faire en sorte que les relations retrouvent leur cours.
Oui.
De toute façon, il me semble qu'aujourd'hui, il ne se passera pas grand-chose et que cette bouderie se prolongera jusqu'à l'élection présidentielle française.
Kader Abderrahim, chercheur à l'IRIS, votre dernier livre géopolitique de l'Algérie, c'est chez Bibliomonde. Merci à vous, merci beaucoup monsieur.
Europe Midi Weekend.
Thierry Dagiral.
On va ouvrir à présent une large page sport avec l'événement du jour, bien sûr, le marathon de Paris. Il avait été annulé l'an dernier à cause du Covid. Victoire du Kenyan Elisha Rotich. Il fait même tomber le record, 42 km à pied en 2h04 18 secondes. Côté femme, victoire de l'Éthiopienne Tigiste Memouye en 2h26 12 secondes. Axel May, 35 000 coureurs sur la ligne de départ ce matin. Et la foule à nouveau au rendez-vous, hein.
Oui, avec le soleil en plus qui est de la partie. Rendez-vous compte, hein, les derniers concurrents viennent seulement de partir alors que les meilleurs ont coupé la ligne d'arrivée ici avenue Foch peu après 11h du matin. Alors ceux qui viennent de s'élancer de l'avenue des Champs-Élysées mettront entre 5h et 6h. Ils arriveront aux alentours de 18h. Du coup, les concurrents, hein, que j'ai rencontrés, que vous allez entendre, sont déjà des cadors. Hein. Par exemple, Maëva Danois a été membre de l'équipe de France d'athlétisme spécialisée en demi-fond. Et là, elle s'est aventurée sur le marathon, son chrono, 2h45.
J'ai pas souffert. Je suis désolée de dire ça pour ceux qui ont... Ça a été une souffrance, mais un pur bonheur et le sourire du premier au 42e kilo.
Voilà, kilo, c'est kilomètre dans, oui, le jargon du marathonien. 35 000 inscrits au départ, vous le disiez, c'est beaucoup, mais bien moins que le record de la dernière édition en 2019, plus de 49 000 partants. Sébastien et Thierry, eux, sont licenciés en club à Angoulême. 2h43 pour le premier, 2h46 pour le second, écoutez-les.
Je trouve qu'il y a beaucoup moins de participants que par rapport aux autres années, peut-être du fait de, par rapport au Covid, peut-être les gens ils ont eu peur, j'en sais rien. Mais autrement, c'est un très beau marathon. Je remercie tous les...
Félicitations donc vraiment à l'organisation. Franchement, magnifique. C'est parfait. Rien à dire.
Magnifique.
Rien à dire.
À refaire.
Parfait.
À refaire. Et ça sera quoi, 2h30 la prochaine fois?
Non, déjà...
Parce qu'on sera plus vieux. Alors ça sera beaucoup plus dur.
On en a 49 et 55 ans, c'est déjà pas mal.
Oui, 2h43, 2h46, c'est déjà super. Alors que vous fassiez, hein, Thierry, un temps canon ou plus de 5 heures, vous, tous les concurrents ont, ouais, le droit à leur t-shirt où il y a écrit « finisher », hein, c'est le terme anglais, mais on comprend ce que ça veut dire, et à une belle médaille pour montrer qu'ils auront fait donc ce marathon de Paris.
Merci Axel May au cœur du marathon de Paris en direct. Bonjour Jean-Claude Perrin.
Bonjour.
Consultant européen, bien sûr, grande voix de l'athlétisme et pas que. J'ai envie de dire encore une victoire du Kenyan Elisha Rotich, qui fait même tomber le record, c'est quand même assez fou. Hein.
Oh oui, c'est une merveilleuse première place. Une course très très limpide, très disputée. Ça a été une course par élimination jusqu'au 30e kilomètre. Après, il restait 8 Kenyans, 3 Éthiopiens. Ça a été une bagarre terrible. Au 35e kilomètre, il a commencé à avoir des accélérations. Mmh. Il y a Kyros qui a tenté sa chance, Rotich a suivi, il est passé en tête au 40e kilomètre, et puis là, pour ceux qui connaissent le bois de Boulogne, il y a une petite montée, une petite descente, il a pris quelques mètres, il a pris sa chance, au 40e kilomètre il était en tête, ils ne l'ont pas revu.
Jean-Claude,
c'était vraiment très limpide, parfait. Ouais.
Il faut bien sûr parler du premier Français, hein, qui s'appelle Johan Durand, 2h09.
2h09-21, il est champion de France.
C'est pas mal.
Ah bah oui, il bat son record, il se qualifie pour les championnats d'Europe, et puis surtout, même s'il est 15e, il est parmi les meilleurs du monde et les meilleurs européens à cette heure-ci.
Jean-Claude Perrin, un mot sur ce marathon de Paris, deuxième en taille derrière New York, mais finalement moins prestigieux que celui de Berlin, Chicago ou Londres, qui, eux, attirent la crème de la crème avec des budgets bien supérieurs finalement.
Oui, c'est pas l'optique de Paris et ils ont bien fait. Paris, c'est un marathon de découverte, de bien-être. C'est un marathon où on ne cherche pas à faire des records. Au contraire, on cherche à montrer le meilleur côté de notre culture et de notre pays, notamment de la France. Donc ça implique des modifications sur le tracé. On a des montées, ce n'est pas plat. Il y a les souterrains qui sont... les souterrains, ce n'est pas des coupes-gorges, mais c'est des casse-pattes terribles, parce que si on descend d'un côté, c'est mathématique, de l'autre côté, il faut remonter. Il y a tous ces virages, ces coudes. Quand on arrive Porte Dauphine, c'est tout ce qu'on connaît avec les embouteillages, il y a des travaux partout. Et faire, justement, un marathon dans ces conditions, c'est très, très bien. En plus, il y a une donnée qu'il ne faut pas oublier, et n'est pas la seule, c'est les presse-monnaies, hein, c'est les primes. Non, le marathon de Paris, il a bien sa place, non seulement dans un programme sportif olympique, mais surtout dans l'éthique du sport, dans l'éthique dans ce que le sport nous représente. C'est pour ça que je l'aime beaucoup.
Rapidement, Jean-Claude, les nombreux amateurs qui ont couru là depuis 9h terminent l'épreuve. Quel conseil peut-on donner pour récupérer après 42 km?
Boire, et surtout ne pas boire trop froid. Se couvrir, parce qu'il y a une déperdition d'énergie terrible. Marcher doucement, faire quelques étirements. Pour ceux qui ont faim, il y en a évidemment. Manger légèrement, attention, mais surtout ne pas s'allonger, si possible ne pas s'asseoir, en raison de problèmes circulatoires. Et puis, je le rappelle une nouvelle fois, pour ceux qui des fois le font, pas de bain exagéré, n'allez pas tout de suite à la piscine pour ceux qui le font. Oui, parce que on a des courses comme Marseille-Cassis, par exemple, où vous arrivez sur la plage,
Ils vont directement
voir ça, et les gens se plongent, c'est très dangereux.
Merci.
Non, et puis, les lendemains de la course, vous regardez votre médaille, vous dormez bien, et puis surtout, vous marchez doucement.
Merci beaucoup.
Quelle satisfaction d'avoir terminé.
Exactement. Le coach Perrin, Jean-Claude Perrin, grand merci à vous, Jean-Claude. Merci beaucoup. Et puis attention, parce que la circulation restera encore difficile en ce début d'après-midi à Paris. Évitez surtout le centre de la capitale. Le foot à présent, victoire hier soir 2-0 de Lyon face à Monaco. Lyon qui se relance en championnat. Lyon 5e, juste devant Marseille, qui conclut cette 10e journée ce soir avec la réception de Lorient. Et un hommage qui sera rendu au boss Bernard Tapie, Jean-François Pérez.
Deux semaines déjà ont passé depuis son décès, mais à l'image de Mathieu, les supporters de l'OM pensent toujours à leur ancien président.
Je n'ai plus rien croyé pas longtemps, hein. Vraiment je suis émotif sur tapis et tous les Marseillais je pense aussi.
Le grand hommage promet le site officiel de l'OM. Un immense portrait de Bernard Tapie couvrira le rond central sur la pelouse. Les joueurs porteront à l'échauffement un t-shirt commémoratif. La famille, les proches seront là. Des tribunes ferventes comme rarement ou comme toujours, assure Mathieu.
Des tifos énormes, je pense que les supporters côté nord et côté sud, ils vont mettre l'ambiance, ils vont envoyer. Et puis même les applaudissements, les chants, comme d'habitude, comme on sait le faire à Marseille. Voilà le feu qu'on va mettre pour lui rendre hommage.
Les associations de supporters travaillent depuis des jours sur des animations à la hauteur de leur reconnaissance pour le vainqueur de la Ligue des Champions. Reste aux joueurs à honorer l'événement de la meilleure des manières. Cela fait 4 matchs que l'OM n'a pas gagné. Et ça, Bernard Tapie n'appréciait pas du tout.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe. Un match à suivre ce soir, bien sûr, dès 20h avec Lionel Rousseau. Et bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Thierry.
Nicolas, on vous retrouve bien sûr tout à l'heure pour La Voix est libre à 14h. Mais vous nous parlez ce midi du roman d'un auteur que les auditeurs d'Europe 1 connaissent fort bien.
Ça s'appelle « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan » aux très belles éditions des Escales. Et l'auteur, c'est Roland Pérez, que les auditeurs connaissent bien. C'est le spécialiste juridique d'Europe 1. C'est un type un peu dandy, Roland, toujours souriant, prévenant. Il connaît le prénom de tout le monde. Mais ce que je ne savais pas, c'est que sa vie est en fait un roman.
Et il a tout mis par écrit dans ce livre, c'est ça ?
Exactement. Dans ce premier roman, qui est aussi une histoire vraie. Mmh. Et l'histoire commence à sa naissance, sixième enfant d'une famille juive séfarade. Sa mère Esther est un personnage assez flamboyant, héroïne du livre. Elle part accoucher, comme on va acheter son pain quasiment au sixième, c'est la routine. Mais cette fois, c'est un peu différent justement. À sa naissance, on lui annonce que son fils a un pied bot. Les médecins lui expliquent qu'ils ont tenté l'opération, il faut le faire très vite, mais qu'il y a de forts risques que Roland ne marche jamais autrement qu'en boitant ou avec des chaussures spéciales. Sauf qu'Esther n'est pas du genre à céder devant le réel. Commence alors une sorte de marathon chez tous les spécialistes possibles, mais rien à faire, il est trop tard, a priori c'est foutu, à moins que... Une femme a peut-être la solution, elle installe une attelle au petit Roland avec une consigne, ne plus bouger pendant un an et demi, rester allongé. Et pour l'aider, elle conseille à Esther de focaliser son attention sur quelque chose ou quelqu'un, ce sera Sylvie Vartan. On est au début des années 70, elle cartonne et Roland Pérez est dingue de sa voix, de son attitude, de tout. Alors on va chercher un manche-disque et on lui envoie les chansons de Sylvie Vartan en boucle. Je chante, c'est pour toi et pour Roland Pérez, c'était vraiment pour lui. Il passe ses journées, ses semaines avec Sylvie Vartan, il apprend à lire avec ses paroles. Et un an et demi plus tard, miracle, il marche. Les années passent, il devient avocat, chroniqueur dans différents médias, dont Europe 1. Et un jour, il devient l'avocat de Sylvie Vartan elle-même. C'est d'ailleurs elle qui signe la postface.
Je ne savais pas tout ça, c'est un livre finalement sur la résilience, si je comprends bien.
En partie, mais Roland Pérez ne l'a pas publié exprès chez un éditeur de témoignages. Il le publie aux Escales, une maison très littéraire. Et il a bien fait parce que ce livre, ce n'est pas seulement l'itinéraire d'un enfant qui a souffert, c'est un superbe portrait de sa mère aussi, un personnage incroyable, d'une époque aussi. Et on rigole beaucoup malgré les drames.
Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Roland Pérez aux Escales. Donc merci Nicolas, rendez-vous dans une heure. Il nous reste à voir la météo.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur? Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien? Les Seychelles vous présentent la météo.
Valérie Darmon, on va faire un point complet avec vous et une impression de beau temps quasi général.
Effectivement, avec de petits bémols, toute la journée, un épais voile nuageux qui recouvre tout de même la façade atlantique, en tout cas les littoraux. Ce voile dense va s'assombrir de plus en plus en donnant quelques gouttes sur l'ouest de la Bretagne et des Landes au Pays Basque en soirée. Sur le Roussillon, on a aussi des entrées maritimes qui ennuagent un petit peu votre ciel en toute fin de journée. Sur le reste de la moitié ouest du Lyonnais et de la Bourgogne au Grand Est, jusque sur la Côte d'Azur, le soleil qui brille magistralement depuis ce matin et ce sera le cas jusqu'à ce soir. Les températures maximales plus douces qu'hier, entre 14 à Bourg-en-Bresse et 24 à Bordeaux, 15 annoncées par Météo France à Langres et à Verdun, 16 à Dijon et à Amiens, 17 à Troyes, à Besançon et à Beauvais, 18 à Paris, 19 à Gap, à La Rochelle, à Rennes et Grenoble, 20 degrés à Aurillac et Bourges, 21 à Nice et Carcassonne, 22 à Angoulême, 23 à Marseille et déjà 24 à Bordeaux, à Cahors et à Pau.
Allez, profitez bien. Merci beaucoup Valérie Darmon. Dans un instant, Isabelle Morizet reçoit l'acteur Eric Elmosnino. À suivre, le rappel de l'info.